donc un taureau. Vous voyez, c'est une tête d'un taureau ou d'un bœuf. Et après, vous voyez la maison, bête. Un autre exemple. Que je n'ai pas encore donné, même, voilà, ça signifie quelques vagues de l'eau, et même veut dire eau. Ou ensuite, ayin, en hébreu veut dire yeux, un œil, et voilà, c'est un œil. Donc un signe qu'on connaît d'ailleurs aussi des hiéroglyphes. D'ailleurs, les Égyptiens auraient pu écrire avec un alphabet. Parce que j'ai déjà expliqué, on a des signes pour des consonnes. Mais ils n'ont jamais voulu écrire de cette façon. Dans les textes, les trois sortes de signes étaient toujours mélangés. Donc un signe pour un mot, un signe pour une syllabe ou un signe pour une consonne. Il semble qu'ils n'ont pas voulu écrire comme ça. Parce que l'écriture devait être le privilège des prêtres qui ne voulaient pas se mettre au niveau du peuple. Vous voyez, le peuple ne devait pas écrire les écrits mystérieux des temples. Alors, vous comprenez donc le système. Peut-être encore Resh, voilà une tête d'homme. Et Resh veut dire en hébreu tête. Ou Taf, c'est une croix. Et Taf veut dire simplement signe, donc le signe d'une croix. Ce qui est aussi remarquable, vous voyez, l'écriture hébraïque a changé à travers les siècles. Quelque temps plus après Moïse, c'est devenu plus abstrait. Vous voyez là, on voit plus tellement la tête d'un bœuf. Mais plus tard, on a donné, depuis le Proche-Orient, cette écriture aux Grecs. Et eux, ils ont adapté cette écriture à leur langue. C'est pour ça, l'alpha grec est donc une adaptation de la lettre Aleph, des Hébreux. Et vous voyez, les Grecs ont donné cette lettre aux Romains, les Romains l'ont donnée aux Français, et notre A est donc toujours une tête d'un bœuf avec deux cornes. Seulement ça a changé 180 degrés, vous voyez. Ou par exemple, vous le voyez aussi avec l'œil. Ça a donné notre, chez les Grecs, omicron, et chez nous, le O, qui est effectivement un œil. Et par exemple, le taf a donné notre T. Et là, on peut toujours reconnaître une sorte de croix. Alors, nous avons compris. L'argument était absolument faux de dire Moïse était incapable d'écrire. Donc, il a pu, au bon moment, écrire la Bible dans un alphabet simple. Troisième point, Moïse et l'avenir. Je pose la question, qu'est-ce qui est plus difficile, la description du passé ou de l'avenir? Bien sûr, nous avons des capacités pour décrire avec justice, le passé, mais nous ne sommes pas capables de décrire l'avenir. Donc, c'est plus difficile de décrire l'avenir. Alors, les cinq livres de Moïse contiennent de l'histoire, ils parlent du passé, mais ils parlent aussi de l'avenir. Pourquoi j'entre dans ce sujet-là? Parce qu'on a dit, le Pentateuch, bien sûr, s'il est vraiment écrit par Moïse, mais cela ne veut pas dire que les histoires qu'il a écrites soient correctes lorsqu'il décrit le passé avant lui dans le premier livre, dans la Genèse. Eh bien, on peut faire l'essai en regardant comment Moïse a décrit l'avenir, qui est plus difficile de décrire que le passé. Vous voyez? Alors, considérons la prophétie de Moïse dans le cinquième livre, dans le Deutéronome. Là, Moïse annonce les malédictions qui vont tomber sur le peuple d'Israël, sur le peuple juif, lorsqu'ils ne suivent plus la loi de Dieu et le commandement le plus important dans le Deutéronome, se trouve au chapitre 18, 15 et suivant, où Moïse annonce le Messie. Et celui qui n'obéit pas aux paroles du Messie sera jugé de Dieu. Eh bien, Moïse décrit les malédictions qui vont tomber sur le peuple juif s'il rejette la parole de Dieu, s'il rejette le Messie. Deutéronome 28, 64. Et retenez, Moïse a écrit cela à la fin du néolithique européen, n'est-ce pas? Et tout ce que nous allons voir s'est réalisé à partir de l'an 70 après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Deutéronome 28, 64. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. C'est un fait que les Juifs sont dispersés depuis l'an 70, dans les centenaires qui ont suivi, parmi tous les cinq continents du monde. Pourquoi il y a des Juifs à Lyon? Pourquoi à Paris? Pourquoi à Berlin? Pourquoi à Moscou? Pourquoi en Amérique du Sud? Pourquoi en Afrique? Pourquoi en Australie? Pourquoi au Tadjikistan, en Inde, en Chine? Pourquoi il y a eu les Juifs partout? Parce que ces mots se sont accomplis. Le peuple dispersé dans le monde entier. Et voilà, 2000 ans de persécution dans le monde entier. Je continue avec le verset 65. Et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité. Et il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Les Juifs dispersés, mais tout le temps persécutés dans le monde entier. Mort et perdition. Je continue dans le texte. Et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant, et des yeux languissants, et une âme défaillante. Pas de sécurité. 66. Et ta vie sera en suspens devant toi, et tu seras dans l'effroi nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie. 13 millions de Juifs ont perdu leur vie depuis l'an 70 par la haine contre les Juifs. Angoisse et oppression. Je lis verset 67. Le matin, tu diras qui donnera le soir. Et le soir, tu diras qui donnera le matin. Terreur et effroi. Je continue. À cause de l'effroi de ton cœur, dont tu seras effrayé, et à cause des choses que tu verras de tes yeux. Chaque mot s'est accompli terriblement. Je finis donc par la conclusion. Nous pouvons voir que la prophétie du Pentateuque s'accomplissait dans le passé à la lettre. Donc preuve que Moïse, qui a vraiment écrit, a écrit le Pentateuque, était inspiré par Dieu. Et s'il savait décrire avec certitude l'avenir, nous avons des raisons pour avoir confiance en sa description du passé. Parce que de toute façon, décrire le passé est plus simple que l'avenir. Je viens de finir donc en montrant la persécution juive qui était particulièrement grave en Europe de l'Est. Alors, je vous joue pour vous reposer un peu. Concerto qui vient de l'Europe de l'Est et qui exprime un peu cette atmosphère juive dans les ghettos. Vous savez, le violon était toujours très important pour les juifs. C'était aussi connu, surtout en Europe de l'Est, pour avoir un son très particulier et beau. Donc ça devrait donner cette impression de cette atmosphère des juifs persécutés, haïs dans les ghettos. Et voilà, puisqu'on n'a pas de piano ici, c'est sur CD que Dina Feinstein, une pianiste juive russe, va accompagner.